L'émission qui va suivre vous est proposée en partenariat avec la librairie La Procure.
Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Alors nous sommes à nouveau à la librairie de la Procure, place Saint-Sulpice à Paris, précisément 3 rue de Mézières, dans le 6e arrondissement de la capitale. Vous savez, cette magnifique librairie qui existe depuis 1919 et qui est la librairie religieuse certainement de toute l'Europe, on va dire. Enfin, c'était ce que nous disait la semaine dernière Thomas Jobet-Duval, son directeur. Je suis avec Mathilde Mailleux, que vous connaissez bien et qui intervient souvent à l'antenne, et puis Caroline Tison, bonjour.
Bonjour.
Alors Caroline Tison, qu'est-ce qu'on va offrir à Noël, et notamment pour les jeunes?
Alors, on a beaucoup de très belles choses cette année. C'est vraiment une belle fin d'année et c'est un plaisir d'avoir autant de beaux ouvrages à conseiller dans différents genres, différents styles, pour différents âges aussi. Une première idée, une série de courts romans qu'on a beaucoup aimés, qui sont des romans qui sont des grands classiques américains. Très connus là-bas, outre-Atlantique, qui s'appellent « Les enfants boxcars ». C'est une série de romans qui s'adresse aux enfants à partir de 8 ans. Et nous avons déjà 3 volumes dans cette série qui, aux États-Unis, en compte énormément, qui est voilà, un peu un égal de Club des 5, où en fait, d'accord, on va suivre une petite bande, en fait, une fratrie de 4 enfants qui ont entre 6 et 14 ans, pour l'aîné, le plus grand, qui sont des orphelins et donc qui se sont organisés une petite vie dans les bois à la manière de petits Robinson.
Oui.
Ils ont aménagé, donc ça s'appelle les enfants boxcars, parce qu'ils ont aménagé un wagon boxcar, qui sont ces wagons voilà, qui font vraiment partie de l'imaginaire collectif américain, les anciens wagons tout de bois.
Dans les 4 enfants, il y a combien de garçons, combien de filles?
Alors,
c'est à parité.
Je crois que c'est à parité,
ouais.
Dans mon souvenir en tout cas. Ouais, je crois que c'est à parité, je crois que c'est 2 et 2.
Donc, goût de l'aventure. De la fraternité.
Voilà, beaucoup d'aventures, puisqu'ils vivent dans cette espèce de cabane dans les bois. Ils pêchent, ils se nourrissent de cueillettes,
incroyable.
Ils attrapent des petites bêtes. C'est assez extraordinaire. Ils vivent plein d'aventures. Ils descendent des rivières en canoë. Ils observent les animaux, ils font du feu. Voilà. Et ce qui est super en tant qu'enfant, je pense, en tout cas en me mettant dans la peau d'un lecteur enfant, c'est d'imaginer cette possibilité d'une vie complètement sans adulte, qui est quand même assez extraordinaire.
Mais oui.
Et en fait, ils ont
sans
portable, évidemment, puisque c'est une série rétro, hein, qui date des années 50-60.
D'accord.
Je ne sais plus exactement, mais voilà, c'est une série un petit peu vintage, comme on dit maintenant, une réédition en tout cas d'un classique qui a tout le charme désuet aussi de cette époque-là. Voilà, ils donc savent ça... qu'ils ont un grand-père un petit peu, ils le savent quand même, dans un coin de leur tête, un peu loin, de manière un peu lointaine, et ils redoutent de rencontrer ce grand-père, parce que ça pourrait mettre fin à cette vie
idyllique. Mais oui.
Et en fait, ils vont rencontrer ce grand-père, et sans tout dévoiler de l'histoire, ils vont se rendre compte qu'en fait, le monde extérieur n'est pas si hostile qu'ils pourraient le penser, et qu'il se pourrait même que des adultes soient des figures aussi bienveillantes et qui peuvent les mener sur des beaux chemins.
Les enfants boxcars.
Les enfants boxcars.
Bon, premier
très
livre d'une série. Un autre livre que vous allez
nous
proposer.
Alors, un autre livre que j'ai aussi énormément aimé, c'est Le Paradis des chats. Ça, c'est un album grand format.
Vous avez un chat?
J'ai plusieurs chats.
Voilà. Donc Caroline Tison est passionnée par Le Paradis des chats. Mmh. Mais il y a tellement de gens qui ont des chats que ce livre va forcément arriver sous le sapin.
Alors Le Paradis des chats, est-ce que vous auriez imaginé pouvoir faire lire Émile Zola dans le texte à des enfants de 6-7 ans? Pas sûr. Moi, en tout cas, pas trop jusqu'à présent.
Oui, ça,
avec
c'est
cet ouvrage, je trouve que la gageure est relevée, ce qui
n'est
quand même pas rien. C'est une nouvelle de Zola. Zola, qui était un très grand amateur de chats, qu'en avait lui-même plusieurs, qui les aimait beaucoup. Nouvelle de Zola, reprise dans son texte intégral. Donc un très beau texte, à l'écriture très ciselée, très fine, qui est intégralement illustré par un artiste illustrateur, Timothée Level, qui est un ancien danseur de haut niveau, qui est aussi styliste, qui est illustrateur donc, qui a énormément de talent, qui a son atelier juste à côté de chez nous, rue de Rennes, à Paris. Atelier au-dessus des toits de Paris, et ça se ressent beaucoup dans son illustration, qui est une illustration tout au crayon de couleur, très, très fine, très précise, vraiment magnifique.
C'est une très belle idée, ça.
Ouais, c'est, très beau.
C'est extraordinairement beau, en fait. Le texte et l'image se répondent
ouais, c'est vrai
avec
beau.
Beaucoup de grâce, beaucoup de délicatesse. C'est l'histoire d'un chat qui vit bien gras et bien nourri dans un bel appartement haussmannien parisien, mais qui, par la fenêtre, ne cesse de voir la vie de bohème que mènent les chats des rues et qui ne rêve que de les rejoindre pour vivre des aventures avec eux. Un jour, à la faveur d'une fenêtre ouverte, il s'échappe et rejoint donc les chats de gouttière. Il est pris sous l'aile d'un de ces chats-là. Et oui, il va se rendre compte que la vie de bohème...
C'est pas évident.
C'est pas si évident que ça.
Non.
C'est les aristochats, en fait.
Oui, c'est les aristochats.
Exactement, c'est la nouvelle qui, en fait, a inspiré Disney plus tard.
Ah oui, c'est vrai.
Ces aristochats, bien sûr. Oui, oui. Oui, tout à fait.
C'est magnifique, ce livre.
Ah, c'est magnifique.
Hein. Ouais.
Et c'est le texte, en plus, manie plusieurs registres. Évidemment, la tendresse, parce qu'on sent que Zola est très amateur de chats, évidemment. On le sent en filigrane, mais aussi beaucoup d'ironie. Et puis, une petite pointe de cruauté, puisque c'est en fait une fable sur le prix de la liberté. Il va choisir, finalement, de revenir au confort et au gras, tout en renonçant à la liberté.
Amoureux des chats et de Paris et des immeubles haussmanniens, eh bien, voilà un livre qui, sous le sapin, se fera bien des contents. Et le paradis des chats, d'Émile Zola, et le nom de...
C'est l'École des loisirs qui publie cette...
Et c'est Timothée Level.
Timothée Level qui illustre. C'est à partir de 6 ans pour raconter et en lecture seule pour des un peu plus grands, à partir de 10-11 ans.
Mais et puis pour les adultes, et puis pour les vieilles dames, parce qu'il y a beaucoup de vieilles dames qui ont des chats. Mathilde Mailloux, qu'est-ce que vous allez nous proposer?
Alors, je vais vous proposer un coup de cœur. C'est La gloire de Notre-Dame. Donc là, on passe au rayon plutôt... adulte.
Oui.
On parle d'histoire plutôt. La gloire de Notre-Dame par Marie-Yvonne de Saint-Pulgent, c'est publié chez Gallimard et donc dans la célèbre collection bibliothèque illustrée des histoires. Alors, Marie-Yvonne de Saint-Pulgent est conservatrice du patrimoine et dans ce livre,
c'est une grande dame.
Ouais, c'est une grande dame qui réussit quand même un tour de force, c'est de nous faire rentrer dans l'histoire de Notre-Dame, mais de façon à la fois. Très très vivante. Le récit est formidable, il est captivant. On a vraiment l'impression de lire un polar. Vraiment, c'est un roman. On rentre dedans avec une facilité déconcertante. Et elle commence bien sûr avec l'incendie de Notre-Dame en avril 2019. Et ensuite, elle va reprendre toute la geste de cette cathédrale unique depuis le XIIe siècle, avec sous la volonté de Maurice de Sully, qui est le bâtisseur, celui qui a voulu la construction de Notre-Dame. Et donc, Marie-Yvonne de Saint-Pulgent, dans ce livre, ne cesse de faire des allées et venues entre l'histoire, mais aussi l'histoire contemporaine de Notre-Dame, c'est-à-dire les enjeux de la restauration, pourquoi on va croiser aussi tous ces hommes à l'époque et ces femmes aujourd'hui qui œuvrent pour la restauration de Notre-Dame et la reconstruction, mais aussi vous allez croiser Zola, Viollet-le-Duc et tous ceux qu'on a oubliés, mais qui ont été éperdument épris de cette cathédrale. C'est magnifique, c'est un ouvrage
Mais elle écrit
splendide.
Très bien, Marie-Yvonne de Saint-Pulgent, et ce qui est formidable dans ce livre, c'est que Notre-Dame n'est plus qu'un symbole, c'est vraiment une personne.
C'est vraiment ça. Et
on sent le poumon de la cathédrale qui bat à travers toutes ces rencontres, ces gens qui passent, qui l'admirent ou qui la détestent.
Exactement. Non, c'est vraiment un livre formidable, qui donne une autre dimension.
Redonnez-nous le titre et l'éditeur.
Alors, La gloire de Notre-Dame, donc La foi et le pouvoir, chez Gallimard.
Voilà. Marie-Yvonne de Saint-Pulgent, je salue au passage.
Je voulais aussi vous présenter un autre coup de cœur. C'est le très bel ouvrage que publie Frédéric Boyer avec son compère de toujours, Serge Bloch, qui est illustrateur. Ça s'intitule « Astronomie ordinaire ». C'est vraiment un très beau livre qui relate, donc sur un texte de Frédéric Boyer, qui relate en fait, à l'occasion de la mort de son père, c'est le vacillement intérieur, c'est-à-dire que sa maman va perdre la tête. Et comment Frédéric Boyer explique dans de très courtes petits textes comment on fait quand on perd à la fois son père, mais qu'on est en train de perdre aussi sa mère, et comment on se reconstruit, comment le travail de deuil peut se faire, comment on accompagne toujours celui qui reste ou celle qui reste en l'occurrence. À chaque fois de très courts textes, magnifiquement bien illustré par Serge Bloch, qui permet de saisir toute l'intensité de l'intention de Frédéric Boyer, de ce qu'il vit. C'est un texte, moi, qui m'a totalement saisi. C'est un texte qui n'est pas triste non plus. C'est tout en douceur. C'est vraiment comment le trait...
Une aide.
Voilà, une aide. Le trait de Serge Bloch, qui est très incisif, très beau, très pur... accompagne le texte aussi, vraiment le texte très, très pur également de Frédéric Boyer. C'est vraiment du bel ouvrage, j'ai envie de dire. C'est vraiment un magnifique livre à offrir parce que ça accompagne aussi la vie. C'est vraiment un ouvrage qui m'a énormément touchée.
Alors, sous le sapin, on peut aussi offrir des livres de la rentrée littéraire parce qu'on a eu le temps, nous, de les lire, donc de les aimer et donc de vouloir les offrir. Je pense aux Partisans de Dominique Bonnat chez Gallimard. Vous savez, c'est Kessel et Druyon, une histoire de famille. C'était Dominique Bonnat est venu nous en parler à cette antenne. Je recommande aussi le nouveau roman de Modiano, la danseuse. Modiano, prix Nobel de littérature. Et son roman est formidable. Le prix Goncourt, Veiller sur elle, de Jean-Baptiste Andréa. On offre toujours le prix Goncourt à sa belle-mère. Enfin, c'est le genre de choses que l'on fait souvent. Et je suis frappé de voir que dans votre catalogue, vous mettez en avant un certain nombre de livres que nous avons évoqués dans ces Culture Club. Je pense à Une jeune fille en feu sur Christine, l'admirable sainte et rebelle, une jeune fille en flûte de Gérard de Cortance, publiée aux éditions Albin Michel. Croix de cendre d'Antoine Sénanque chez Grasset, qui est venu il y a quelques semaines ici à ce micro pour nous parler de ce livre, moi, qui m'a vraiment épaté, sidéré, et que j'ai beaucoup aimé. Puis, on peut rappeler l'encyclopédie, l'histoire juive de la France, sous la direction de Sylvie-Anne Goldberg, qui est publiée chez Albin Michel et qui a le coup de cœur de votre patron, Thomas Jobé-Duval. Est-ce que vous avez des bandes dessinées à nous proposer ?
Ah oui, j'ai des bandes dessinées.
Caroline Tison.
Pour cette fin d'année.
Oui.
Alors, on a deux grosses sorties de BD. On a déjà le Astérix, le nouveau cru d'Astérix.
L'Iris Blanc.
L'Iris Blanc. Et alors, c'est un excellent cru. Vraiment.
C'est vrai ?
Oui, ça faisait des années que Astérix n'avait pas été aussi bien. Donc, lisez-le vite.
C'est vrai ?
Ah oui, vraiment. On s'est tous régalés, tous ceux qui l'ont lu. On
a absolument.
Beaucoup ri.
Oui, beaucoup ri.
Beaucoup ri, parce qu'on retrouve la façon de croquer les travers de notre société, qui était quand même ce qui faisait tout le
charme.
Tout le charme et l'humour si particulier du Derzo et Goscinny.
Mais parce qu'il faut dire, il y avait quelques Astérix récemment qui étaient
moins réussis. Celui-ci est très réussi parce qu'on a au scénario Fab Caro, qui est écrivain, qui est aussi un auteur de bande dessinée humoristique, qui travaille beaucoup sur un humour très décalé, très second degré. Dans cet Astérix, c'est moins le cas. Ça reste un humour beaucoup plus grand public et bon enfant que par rapport à ce qu'il a l'habitude de faire. En revanche, ça marche extrêmement bien. On suit, en fait, on a cette nouvelle éminence grise. Je ne sais pas si son visage vous dit quelque chose.
Bon, il rappelle le monsieur Bernard-Henri Lévy.
Un petit peu, c'est ça. Vous l'aurez reconnu. Qui murmure à l'oreille de César et qui arrive avec une nouvelle école de pensée, donc qui se nomme l'Iris Blanc, qui prône la bienveillance, le respect entre tous et surtout le développement personnel de chacun.
Ah, je crois que je vais l'acheter.
Une meilleure alimentation avec des sources locales. Vous imaginez ce que ça peut donner pour les Gaulois qui vite vont se retrouver contaminés par cette nouvelle idéologie.
Ben oui, parce qu'eux, ils aiment manger des animaux morts.
C'est ça, plutôt du sanglier, plutôt des poissons pas toujours très frais.
Voilà.
Et qui vont se retrouver embarqués par cette idéologie.
Mais rassurez-moi, Caroline.
Venue de Rome, c'est extrêmement
drôle.
Ça se termine quand même par le banquet, je vous rassure, mais après quelques péripéties qui nous font craindre pour les sangliers.
L'Iris Blanc, et bien écoutez,
L'Iris Blanc, c'est vraiment super, et voilà, c'est pour toute la famille.
Vous me donnez envie. Et puis alors, un autre classique.
Autre classique. Alors, depuis des années, Gaston, la série des Gaston, évidemment, était terminée. Gaston, c'est ce célèbre anti-héros de Franquin, héros absolument génial de la BD belge, paresseux et évidemment très gaffeur. Delaf a donc repris le dessin de Franquin de la manière la plus fidèle possible pour pouvoir ressusciter ce personnage et lui faire revivre de nouvelles aventures. Il débarque à nouveau au sein de la rédaction du journal de Spirou. On retrouve cette structure en plusieurs gags à chaque fois qui fait le charme de Gaston. On retrouve Prunel, le fameux patron qui jette finit par jeter son tablier devant ce retour qui définitivement le met à terre. On a Fantasio qui va reprendre les rênes de la rédaction et qui lui aussi va être au bord de l'apoplexie. C'est toujours aussi drôle, c'est très savoureux et c'est super de pouvoir le proposer à des jeunes générations qui du coup ne connaissaient plus forcément Gaston.
Mais oui. Alors voilà encore un album à lire en famille.
Exactement.
Donc ça, c'est très bien, les albums qu'on puisse se partager, intergénérationnel, on va dire.
C'est ça.
Mathilde, vous avez d'autres choses à nous proposer?
Oui, alors, justement, on parlait d'albums intergénérationnels. Alors, en tout cas, celui-ci en est un, L'île au trésor, donc ce célèbre texte et roman de Robert Louis Stevenson, qui revient ici sous une forme extrêmement agréable. C'est celui du bel album illustré. C'est publié chez Sarbacane, et donc avec des illustrations, donc... par Anton Lomaeff. L'île au trésor, c'est vraiment...
C'est le texte intégral ?
C'est le texte intégral, oui, puisque ouais. Ça n'est pas un texte si long que ça. Et c'est vraiment une très belle manière. Ça reprend un peu cette tradition de ces grands textes qui étaient mis justement...
par Gustave Doré,
voilà, exactement,
par exemple.
Exactement. Et on reprend... Donc, les éditeurs reprennent beaucoup cette idée de proposer des textes sous une forme beaucoup plus large, aérée, et qui permettent aussi de... concentrer l'attention sur les images qui viennent illustrer et soutenir le texte qui parfois, notamment sur L'île au trésor, ben, là je tombe sur le Conseil de guerre, le chapitre 12, et avec, on voit page de gauche, et bien justement des marins, on sent dans un salon privé d'un très beau bateau 18e, avec des hommes en perruque, tout de suite évidemment ça a plus de relief pour tout le monde. Voilà, chapitre 10, le voyage, avec on est sur le pont du bateau, avec les matelots et les officiers. Voilà, tout de suite, ça prend beaucoup plus d'envergure, on sent beaucoup plus de profondeur. Voilà, c'est un très très bel album publié aux éditions Sarbacane.
Mais c'est vrai que les grands textes comme ça, d'avoir plusieurs éditions, on va avoir le petit poche dans un coin, mais d'avoir un bel objet, c'est une façon aussi de souligner le goût qu'on a pour ce texte-là, ou le goût qu'on a, l'envie d'ouvrir ce texte-là.
Oui, parce que c'est important.
Beau. Ouais.
C'est beau. Alors, c'est le cas aussi pour les éditions Hauteville, qui publient une intégrale. Alors,
j'adore les intégrales.
Voilà, ça plaira beaucoup aux jeunes filles. C'est Jane Austen, célèbre romancière anglaise début du 19e. Donc, vous allez retrouver tous les grands romans. Enfin, c'est l'intégrale, d'Orgueil et Préjugés à Emma, en passant par Northanger Abbey, Persuasion. Enfin, tous les grands.
Alors, c'est kitschissime mais très anglais.
Exactement.
Hein.
C'est voulu, mais c'est très réussi.
C'est très réussi.
Vous avez sur la tranche du livre, qui est très joliment décorée, en couleur, en violine, Jane Austen. C'est son autographe qui a été reproduit ici. C'est vraiment un très bel ouvrage, un très beau cadeau.
So British.
Ouais, so British, mais très réussi. Très réussi, franchement. Et donc, illustré à l'intérieur également, avec des gravures de l'époque.
Et ce qui est très agréable, c'est que le texte est en colonne,
en deux colonnes.
Le problème des grands livres, souvent, c'est que les yeux s'essoufflent à traverser la page qui est grande.
Voilà, et c'est très bien imprimé, on ne voit pas en transparence.
C'est
très très bien, c'est très réussi.
Ah, oui.
Toutes les fans de Jane Austen, mais je sais que les hommes aiment aussi Jane Austen.
Oui, beaucoup. Orgueil et Préjugés, j'adore.
Voilà, c'est superbe.
Mais oui.
C'est son plus beau roman. C'est une très belle réussite. C'est une très belle réussite. Ça, c'est un très beau cadeau.
Tiens, on va donner le prix pour rigoler.
Alors, pour rigoler, mais ne vous effrayez pas, c'est quand même pas très cher pour le livre, l'objet lui-même, qui est magnifiquement réalisé, ouais. 69 euros. Et vous avez tout Jane Austen.
Ah non, mais c'est formidable. Bah, c'est le prix
donc
du Pléiade, en fait.
Voilà.
Mais non, c'est très très beau. Alors, moi j'aime vraiment ce côté kitsch. Vous voyez, avec le pan là.
Ah oui, c'est très beau.
C'est très très bien. Et puis ce violet et ce vert, on se croirait déjà
en
Angleterre.
Oui, c'est très réussi. Ouais.
Alors, autre chose.
Moi j'ai un vrai coup de cœur de cette rentrée littéraire. Un livre dont on parle trop peu. Ça s'intitule Une odeur de sainteté par Franck Maubert, publié au Mercure de France. Ce texte est un petit bijou, mais effectivement, c'est une curiosité. Donc, cela raconte l'histoire d'un nez de parfumeur.
Oui.
Elle s'appelle Franck Maubert, mais c'est Jeanne Doucet, qui est un nez et qui est un jour appelée par un diacre et par un anapath pour humer le cœur d'une peut-être future sainte, une jeune femme du 19e siècle. On est dans les années 1830-1840. Elle s'appelait Hérémence. Émérence. Et donc, on ne sait rien, mais on sait qu'un procès en canonisation est en cours et on demande à Jeanne Doucet de venir humer ce nez, humer ce cœur.
Ce cœur, oui.
Première expérience totale pour Jeanne Doucet, qui est bouleversée, qui sent quelque chose d'assez ineffable, qu'elle ne comprend pas. Elle n'a jamais senti ça. Et après l'expérience, le parfum, cette fragrance inédite dans sa vie professionnelle de nez, en fait, la hante, la poursuit et elle décide de partir à la recherche ou en tout cas de comprendre et de découvrir qui est cette jeune femme, jeune fille dont elle a humé le cœur. Il n'y a pas plus intime comme partie du corps. Et donc, en fait, ce livre est comme un rêve éveillé ou un voyage un peu dans le temps. Elle va partir dans le Berry, donc cette région qui est quand même...
le pays des sorcières.
Parler des sorcières, et elle va rencontrer... Donc c'est un livre qui raconte à la fois la quête un peu inexplicable pour cette jeune femme, Jeanne Doucet, de comprendre qui était cette jeune Émérence. Elle va rencontrer, mais c'est un ouvrage qui permet aussi de rentrer dans une atmosphère, dans une époque, parce qu'elle va donc découvrir l'histoire de cette jeune femme. Elle va aussi rencontrer des personnages tout court de la vie, de sa vie à elle, qui sont en soi des personnages, une jeune femme qui va l'accueillir dans son hôtel, des personnalités étranges. Et ce livre se conclut dans un lieu que j'aime énormément, mais lui aussi étrange, qui est donc la ville de Richelieu. Donc qui est en Touraine et qui est en fait une ville conçue et bâtie par Richelieu, le cardinal, et qui est très particulier parce qu'il a un plan, c'était une ville dont le plan est un carré c'est une ville, pour ceux qui connaissent cette ville, c'est une ville qui est vraiment complètement 17e, hein. C'est toute de briques et de pierres blanches, et donc en cardo et en decumanus, hein, c'est un plan parfait. Et dans une étrangeté, elle va aussi, dans cette étrange ville, elle va découvrir un homme particulier qui va lui donner des informations supplémentaires sur cette jeune Émérence qui, en fait, fait tressaillir beaucoup de gens. Et voilà, en fait,
enquête, et
en fait, surtout, ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est le tressaillement spirituel. Qu'est-ce qui fait que, à travers une expérience particulière, unique, olfactive, donc, eh bien, il se passe quelque chose de l'ordre du spirituel. Et puis, c'est un livre aussi qui est magnifiquement bien écrit.
Ça, une odeur de sainteté au Mercure de France par Franck Maubert, qui était samedi dernier en dédicace à 15h30, ici même à la librairie de la Procure. Et puisqu'on en est aux rencontres et aux dédicaces, vendredi prochain, c'est-à-dire dans 3 jours ou 4 jours, vous pourrez rencontrer Paul de Vulpillière, qui dédicacera de 15h à 18h son ouvrage aux éditions de l'Emmanuel, Carlo Acutis, En route vers le ciel. Et j'en profite aussi pour dire que dimanche prochain, décidément on fait tous les trucs de la paroisse, mais dimanche prochain, le 17 décembre, vous pourrez rencontrer Jérôme Cordelier ici à la Procure, 3 rue de Mézières, dans le 6e arrondissement. Et il dédicacera à partir de 15h30, vous savez, ce livre qui s'appelle « Après la nuit, ces chrétiens qui ont reconstruit la France et l'Europe » chez Calman Lévy. Il était venu il y a 15 jours, je crois, ou 3 semaines, ici même dans Culture Club, pour nous parler de ce livre qui est absolument épatant et qui donne des figures. Il ne faut pas imaginer que c'est la construction européenne qui est faite par des figures de grands chrétiens. Non, il prend vraiment les grandes figures de la France dans ces années 45 et 54. Et on s'aperçoit aussi qu'il y a des femmes de la résistance qui sont très présentes et qui, sans elles, tout ne se serait pas passé comme prévu. Donc, Jérôme Cordelier, dimanche prochain, à 15h30, il dédicace « Après la nuit, ces chrétiens qui ont reconstruit la France et l'Europe ». Vous avez d'autres coups de cœur à nous proposer ?
Moi, j'ai « Le chemin de sel » par une Anglaise, Raynor Wynne, qui est donc publié chez Stock, un très beau livre qui a eu un énorme succès en Angleterre et qui est arrivé jusque chez nous au printemps dernier, que j'ai découvert que cet été, mais qui est magnifique. L'histoire, en quelques mots, Raynor Wynne est donc une femme qui a fait, un jour se retrouve avec son mari complètement désargenté, du jour au lendemain ils perdent tout, leur maison, il faut qu'ils quittent leur maison, ils n'ont plus rien, ils n'ont que les aides que leur donne l'État une fois toutes les semaines. Et Raynor Wynne et son mari décident donc ils habitent en Cornouailles, et ils décident donc de faire un célèbre chemin qui s'intitule de plus de 1000 km, qui s'intitule le chemin de sel. Et donc eux, ils le font, on part du bas de la Cornouaille pour la remonter, mais eux, ils sont au nord, et donc du coup ils décident de faire l'inverse. C'est très compliqué, et c'est d'autant plus compliqué, donc tout est compliqué dans leur histoire au démarrage. mariage. Donc, ils n'ont plus rien. Et son mari a développé une maladie très rare, qui est très difficile. Mais ils partent. Alors, ce livre, c'est un carnet de voyage. Mmh. C'est un récit magnifique où vous allez... Enfin, d'abord, vous avez l'impression de faire ce chemin avec vous. Les paysages sont somptueux. On a vraiment envie d'aller sur Internet ensuite pour redécouvrir, pour les suivre en même temps à la trace, pour découvrir ces paysages qui sont très, très bien évoqués dans ce livre-là.
Caroline, vous avez d'autres choses à nous proposer?
Oui, j'ai notamment une adaptation en roman graphique de L'Axe du Loup, de Sylvain Tesson, écrivain voyageur qu'on connaît bien. Et donc ça, c'est la troisième adaptation de Sylvain Tesson en roman graphique. C'est chez Casterman, toujours adapté par le même dessinateur qui est Virgile Dureuil. Il avait déjà travaillé avec Tesson pour Bérézina, donc sur les traces de Napoléon, et pour Dans les forêts de Sibérie.
Et oui.
Et là, donc, L'Axe du Loup, c'est le récit de ce grand périple sur un peu plus de 5000 kilomètres que Tesson a entrepris sur les traces des évadés du Goulag à la suite de la lecture de cet ouvrage assez célèbre de Ravix. Ce Polonais donc, qui était un évadé du Goulag. Et donc, c'est tout son périple de Sibérie jusqu'à Calcutta. 5000 kilomètres d'aventure.
Merci Caroline Tison, merci Mathilde Mailleux pour toutes ces idées de cadeaux. Merci à Robin Poplin, Jean-Paul Lérine, François Dieudonné, Louis-Marie Picard, Camille Meyer et Philippe Malpeuch pour la réalisation technique de cette émission. Nous nous retrouvons demain pour parler de cinéma. Je vous embrasse.